France Musique.
Vous allez
l'adorer. Vous allez l'adorer.
Bonjour, c'est France Musique. Bienvenue dans nos rendez-vous de l'été qui célèbrent toutes les musiques et leurs artistes. Dans un instant, place à Musique Matin jusqu'à 9h avec Clément Rochefort. C'est l'été sur France Musique. Musique Matin, le 7h39 de Clément Rochefort.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce matin jusqu'à 9h sur France Musique. Nous sommes le jeudi 8 juillet 2021. Un grand jour puisque nous célébrons aujourd'hui le 400e anniversaire de Jean de La Fontaine, né le 8 juillet 1621, grand poète du XVIIe siècle, auteur des fameuses fables qui ne connaît pas par cœur, le corbeau et le renard ou encore la cigale et la fourmi. Alors à travers nos différents rendez-vous du jour, on va fêter à notre manière Jean de La Fontaine en musique, avec d'abord à 7h40 un reportage consacré à Jean de La Fontaine mis en scène par Susanna Kubik. À 7h50, dans le jeu de l'été, vous pourrez gagner le dernier disque du violoncelliste Victor Julien Laferrière, un disque Dvorak et Martinou. À 8h, le journal de Marie-Hélène Duvigneau. À 8h10, dans le Tour de France des festivals, nous irons à Fontainebleau. À 8h25, l'été des frères Jacques, qui ont eux aussi chanté Jean de La Fontaine. Et puis à 8h30, notre invité du jour sera le chef d'orchestre, claveciniste et organiste Stéphane Fuget, pour évoquer Il ritorno d'Ulisse in patria, le retour d'Ulysse en sa patrie de Monteverdi, avec son ensemble Les Épopées au festival de Beaune. Mais avant de commencer, saviez-vous que Jean de La Fontaine a collaboré à de nombreuses œuvres musicales et qu'il a inspiré d'aussi nombreuses à travers tous les siècles? Aujourd'hui donc, que du La Fontaine, ou presque, à commencer par un extrait des Animaux modèles de Francis Poulenc. Bon réveil et bienvenue à tous sur France Musique.
Thank you.
Voilà, c'est à notre manière de fêter l'anniversaire de Jean de La Fontaine, en commençant avec la musique de Francis Poulenc, deux extraits de son ballet Les Animaux Modèles, le lion amoureux et l'homme entre deux âges et ses deux maîtresses, interprétés par l'Orchestre National de France sous la baguette de Charles Dutoit, un ballet du XXe siècle donc, inspiré par les fables de La Fontaine. Alors à propos de Jean de La Fontaine, je vous signale aussi la parution ces jours-ci aux éditions Villanelle du livre-disque Concert de Fables, conçu par Marianne Vourche. Un beau livre sur papier glacé où les plus belles fables de La Fontaine sont illustrées par les gravures colorisées et des dessins de Ségolène Caron. Marianne y a sélectionné quelques fables réunies en plusieurs sections associées chacune à un instrument de l'époque de La Fontaine. Alors on a la viole de gambe, la flûte, le théorbe, etc. Sur ce disque, les fables sont déclamées soit par un comédien de la Comédie Française, Didier Sandre, soit en prononciation 17e restituée par Hubert Hasbrouck. Et pour couronner le tout, c'est l'excellent ensemble La Rêveuse qui a enregistré les pièces contemporaines de La Fontaine pour agrémenter chacune des fables. Bref, c'est un joli livre pédagogique qui pourrait bien faire de belles lectures estivales quotidiennes pour vos enfants et vos petits-enfants. Extrait.
Elle ressemble à un violoncelle, mais elle n'est pas de la même famille. Elle est maintenue par les jambes. Même la plus petite. Qui est ce compagnon que vous allez découvrir maintenant ? La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf.
Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Elle, qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, envieuse, s'étante et s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur, disant: « Regardez bien, ma sœur, est-ce assez? Dites-moi, n'y suis-je point encore ?»«
Nenni,
m'y voici donc !»«
Point du tout !»«
M'y voilà !»«
Vous n'en approchez point !»
La chétive pécore s'enfla si bien qu'elle creva.
Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs. Tout petit prince a des ambassadeurs. Tout marquis veut avoir des pages.
« Voilà un extrait de ce livre-disque Concert de fables de Marianne Wurch, un livre France Musique dont on entendait à l'instant une polonaise de Maramarais pour accompagner, pour entourer cette fable, la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf, récitée en prononciation restituée du 17e par Hubert Hasbrouck avec les musiciens de l'ensemble La Rêveuse.
C'est l'été sur France Musique.
Merci d'être avec nous ce matin. Il est 7h40, c'est l'heure de l'actu. Et on apprend via nos confrères de la RTBF la mort de la chanteuse grecque Angélique Ionatos. Elle s'est éteinte hier au Lila, en banlieue parisienne, à l'âge de 67 ans. Arrivée en Belgique à Liège en 1969, avec ses parents qui fuyaient la dictature des colonels, elle a commencé à chanter en français. En 1972, elle a enregistré son premier disque en français avec la collaboration de son frère Fotis. Pendant une vingtaine d'années, elle a été une sorte d'égérie de la gauche alternative liégeoise, donnant de multiples concerts en soutien aux luttes syndicales et ouvrières. Marquée par l'exil et ses racines grecques, elle a développé un répertoire largement inspiré des auteurs hellènes et des poésies saphiques. Guitariste, compositrice, elle avait fini par s'installer en région parisienne il y a une trentaine d'années. Le Figaro revient sur le bilan mitigé des deux grands festivals français, les Vieilles Charrues et les Francofolies, qui déplorent un bilan mitigé mettant en cause le pass sanitaire vu comme une contrainte par les spectateurs. La semaine dernière, on était à 50% de billets vendus. Là, ça continue à se vendre, mais il n'y a pas eu d'explosion des ventes cette semaine. Il y a toujours la question du pass sanitaire, déplore le patron des Vieilles Charrues, Jérôme Tréorel. Même constat aux Francofolies. Alors que certains syndicats avaient demandé la suppression du pass sanitaire, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, avait répondu qu'en l'état actuel, compte tenu de la poursuite de l'épidémie, sa suppression ne pouvait pas être envisagée. En tout cas, côté festival classique, le pass sanitaire ne semble pas freiner les ventes, si l'on en croit l'extraordinaire ouverture de billetterie du festival de Bayreuth en Allemagne. Le temple des opéras de Wagner, rapporte Diapason, a écoulé les 24 700 billets disponibles en 2h30 le jour de l'ouverture, le 4 juillet. Malgré la restriction à 12 places maximum par acheteur, Wagner n'a pas fini d'ensorceler les foules. Et enfin, en ce jour anniversaire de Jean de La Fontaine, Susanna Kubik s'est demandé comment mettre en scène et en musique les fables aujourd'hui. L'année anniversaire du célèbre écrivain a inspiré de nombreuses réinterprétations ou reprises. Deux versions scéniques ont été attirées notre attention, l'une tout en sobriété, l'autre exubérante et onirique.
Ayant de lui prêter quelques grains.
Avec le premier hommage, on remonte le temps. Le concert comptait tout public autour des fables de La Fontaine de l'ensemble Chapelle Harmonique nous fait entendre l'univers musical du célèbre écrivain. Le décor est sobre, quatre musiciens sur scène, traverso, théorbe, harpe baroque et viol de gambe, la récitante Jennifer Decker et le ténor Mathias Vidal. L'accent est sur la musique et les vers du poète. Le seul effet visuel, la dessinatrice Georgia Mara dessine au fur et à mesure les animaux projetés sur un écran géant. Pour Valentin Tournet, il était important de rester dans les codes d'une interprétation historiquement informée.
La démarche des fables de La Fontaine en musique, c'était de retrouver en fait les premières versions musicales. À partir de là, on a connecté des fables récitées, originelles de La Fontaine, aux fables chantées et des pièces musicales instrumentales du grand siècle qui évoque différents animaux du bestiaire de La Fontaine, etc. Et il y a des airs de cour et chansons à boire pour reconstituer une sorte de soirée chez Monsieur de La Fontaine.
Les fables récitées dans leur version originale peuvent être difficiles d'accès pour les plus jeunes, concède Valentin Tournet, mais moins dans leur version chantée.
Quelque part sont des simplifications parce qu'il a fallu faire un livret assez condensé pour pouvoir compresser l'action et utiliser des mots peut-être plus simples qui, avec l'aide de la musique et de la basse écrite par Claire Rambaud, permettent aux enfants d'avoir un deuxième moyen de comprendre la fable.
Elle est réduite à vivre d'air.
Changement d'ambiance avec le Fabulatographe. Un ciné-opéra jeune public, onirique et poétique proposé par la compagnie Les Mondes de Reuilly. Au départ, la claveciniste et metteuse en scène Hélène-Claire Murgier a choisi pour trame musicale différentes mélodies et vaudevilles à la mode à l'époque baroque, inspirées de La Fontaine qu'elle a souhaité mettre au goût du jour.
On a trouvé cette musique du XVIIIe siècle. Ce sont des fables qui sont arrangées dans le goût de La Fontaine, mais un peu simplifiées, et donc qui peuvent être chantées, notamment par des enfants, et même accompagnées par des enfants qui ne sont pas forcément de grands musiciens. Le questionnement qu'on avait, c'était comment est-ce qu'on fait faire entendre les fables sans que ce soit juste une succession, mais qui est quand même un fil conducteur.
Avec la vidéaste Luison Coste, elle a imaginé ensuite une narration poétique qui est projetée tout au long du spectacle sur une tulle placée entre les musiciens et le public. Pour comprendre les fables aujourd'hui, il faut les réactualiser. Et la vidéo est un excellent moyen d'accrocher le regard des enfants.
Par le biais de la vidéo et des jeux de lumière, très vite, en fait, on peut plonger dans un univers onirique et peut-être que ça les aide à se laisser aller dans cette écoute de la musique aussi. Ce qui aide, a priori, aussi toujours dans cette démocratisation de l'art lyrique, de se dire qu'on peut un peu casser les codes et ajouter des choses qui ne sont pas tout à fait conventionnelles.
Décidément, le fabulatographe casse les codes, comme avec cette reprise des Sauvages dans l'esprit hip-hop qui clôt le spectacle au grand bonheur des enfants.
Un reportage de Susanna Kubik autour de Jean de La Fontaine et de ses mises en scène. Jean de La Fontaine, qu'on connaît bien pour ses fables donc, mais qui a aussi été à l'époque librettiste en son temps, pour Lully notamment et pour Marc-Antoine Charpentier, pour qui il avait écrit le livret de la pastorale « Les amours d'Assis et Galatée » d'après les Métamorphoses d'Ovide, une pastorale restée incomplète mais dont nous sont parvenus les deux premiers actes. En voici un extrait. Ouverture, Marche pour les hautbois et les plaisirs, trois extraits des Amours d'Assis et Galatée de Marc-Antoine Charpentier, cette pastorale pour laquelle Jean de La Fontaine avait écrit le livret, et c'était les musiciens de la Symphonie du Marais qu'on entendait sous la direction de Hugo Reyn. Merci d'être avec nous ce matin sur France Musique. Il est 7h50, c'est l'heure de jouer. Alors, à gagner ce matin, le dernier disque du violoncelliste Victor Julien Laferrière, paru sous le label Alpha en avril, qui réunit deux concertos pour violoncelle, l'un de Dvorak et le premier concerto de Bohuslav Martinu avec l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège, dirigé par Gergely Madaras. Un disque qui fait se croiser deux musiques très différentes, mais écrites par deux compositeurs qui ont en commun d'être nés en Bohême avec un très fort attachement à la musique de leur pays d'origine et d'être partis pour vivre l'expérience américaine. Alors pour gagner, il vous suffit de répondre correctement à la question qui va suivre en nous écrivant via l'onglet « Contactez-nous ». C'est sur la page de l'émission Musique Matin sur francemusique.fr. N'oubliez surtout pas d'indiquer vos coordonnées postales complètes. Voici la question. En 1927, Martinu a écrit un ballet très amusant qui met en scène des ustensiles de cuisine. Le torchon, la casserole, le fouet, etc. Quel est son titre? Est-ce que c'est la batterie de cuisine, la danse des cuisines ou la revue de cuisine? En 1927, Martinu a écrit un ballet très amusant qui met en scène les ustensiles de cuisine. Le torchon, la casserole, le fouet, quel est son titre? La batterie de cuisine, la danse des cuisines ou la revue de cuisine? C'est parti, c'est à vous de jouer. Vous avez jusqu'à 8h50 pour participer lors du tirage au sort.
Thank you.
Le final du concerto pour violoncelle numéro 1 de Borislav Martinou sous l'archet de Victor-Julien Laferrière avec l'Orchestre Philharmonique Royale de Liège dirigé par Gergely Madaras. C'est le disque qui est en jeu ce matin. Je vous rappelle qu'il faut trouver le titre d'un ballet amusant de Martinou. Vous avez jusqu'à 8h50.
Savoir sur les festivals qui rythmeront votre été, je vous donne rendez-vous dans l'agenda de l'été. Ça se passe du lundi au vendredi de midi à 13h sur France Musique et en podcast sur l'appli Radio France. Bel été!
Se vacciner contre la Covid-19, c'est se protéger, protéger les plus fragiles et pouvoir bientôt tous se retrouver. Qui peut se faire vacciner aujourd'hui? Toutes les personnes de 12 ans et plus. Alors n'attendez plus. Faites-vous vacciner. Vous pouvez vous renseigner et prendre rendez-vous sur santé.fr ou auprès d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un infirmier. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé et de l'Assurance Maladie.
France Musique.
Merci d'être avec nous ce matin. Il est 8h. Et c'est l'heure, non pas des petits oiseaux, mais peut-être des tweets, en tout cas c'est l'heure de l'actu, avec Marie-Hélène Duvigneau, bonjour.
Bonjour Clément, bonjour à tous. Haïti plonge un peu plus dans le chaos. Son président Jovenel Moïse a été tué à son domicile dans la nuit de mardi à mercredi. Selon la police, 4 mercenaires ont été abattus et 2 autres arrêtés après cet assassinat. Haïti est gangréné par l'insécurité et la violence des gangs depuis des années. Cet assassinat de son président, un dirigeant très contesté par son peuple, menace de déstabiliser encore un peu plus ce pays déjà fragile. Franck Mathevon.
C'est un État dysfonctionnel dont les institutions sont parties à la dérive. Le Parlement n'est plus opérationnel depuis 1 an et demi. Seuls 10 sénateurs sont encore en fonction. Le Premier ministre par intérim, Claude Joseph, a semblé hier prendre les commandes du pays. Mais le président Jovenel Moïse avait nommé lundi un autre Premier ministre, Ariel Henry, qui n'a toujours pas prêté serment. Dans les rues de Port-au-Prince, les gangs font la loi en toute impunité. Ils s'affrontent pour le contrôle de quartiers, multiplient les enlèvements contre rançon. Il est impossible de circuler sur certains axes. 16 000 personnes ont été contraintes de quitter leur domicile pour échapper aux violences depuis début juin. Haïti est gangréné par la corruption et englué dans la crise économique et sociale. La pandémie de Covid parachève le tableau. Les hôpitaux sont saturés et les chiffres largement sous-estimés. Le président de la Cour de cassation, qui pourrait prendre la tête de l'État dans de telles circonstances, selon la Constitution, est mort du virus il y a 2 semaines. C'est un pays en passe de basculer vers l'anarchie qui vient de perdre son président, un homme impopulaire qui s'accrochait au pouvoir, un pays que le monde entier appelle à organiser des élections.
La vague de chaleur qui a frappé fin juin l'ouest des États-Unis et du Canada aurait été presque impossible sans le réchauffement climatique causé par les humains. C'est la conclusion des scientifiques du World Weather Attribution, une initiative regroupant des experts de divers instituts de recherche à travers le monde. Selon eux, 2 scénarios sont possibles pour l'avenir. Le premier est que même si la crise climatique a amplifié et rendu probable un tel événement, il reste malgré tout très rare. La seconde hypothèse est plus inquiétante. La hausse générale des températures pourrait avoir fait franchir un seuil conduisant à un réchauffement exponentiel plus important que ce que l'on prévoyait jusqu'à présent et que les modèles climatiques actuels échouent à prédire. Un conseil de défense sanitaire exceptionnel lundi prochain pour trancher notamment sur l'obligation vaccinale pour les soignants. Le Premier ministre Jean Castex consulte cet après-midi les associations d'élus locaux sur la question. L'association des maires ruraux s'y dit ce matin favorable. Après quelques semaines d'accalmie, le gouvernement ne cache pas son inquiétude. Le virus gagne à nouveau du terrain en raison du variant Delta, Boris Allier.
Parmi les départements où ce variant circule le plus, on retrouve les Landes, la Somme, Paris, le Var ou la Haute-Savoie. Ils représentent désormais plus de 40% des contaminations au niveau national, contre 20% la semaine dernière. Un variant plus contagieux, redoutable et extrêmement rapide, selon les mots du porte-parole du gouvernement. Et avec cette propagation, le nombre de nouveaux cas positifs repart à la hausse. Le taux d'incidence a augmenté de 20% en 7 jours. 11 régions sont concernées et c'est à Paris que le regain est le plus frappant. Le seuil d'alerte des 50 cas pour 100 000 habitants est désormais dépassé. Et si l'on regarde à la loupe, on voit que ce taux d'incidence a bondi chez les plus jeunes de 47 à 124 cas pour 100 000 habitants en une semaine chez les 20-29 ans.
Au niveau national, pour la première fois depuis près d'un mois, le nombre de cas quotidiens est repassé hier au-dessus des 4 000 contre 2 457 une semaine auparavant. Bonne nouvelle, là, tout de même, les chiffres à l'hôpital continuent de diminuer. Le nombre de patients atteints du Covid en service de soins critiques est passé sous la barre des 1000 pour la première fois depuis septembre. Hubert Caouissin, condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour le quadruple meurtre de la famille Troadec en février 2017, près de Nantes. Après plus de 7 heures de délibéré, la cour d'assises de Loire-Atlantique a retenu l'altération du discernement de l'accusé, lui faisant ainsi bénéficier d'une atténuation de peine. Le ministère public avait requis la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Son ancienne compagne Lydie Troadec, qui comparaissait libre, a été condamnée à 3 ans de prison dont 2 ans ferme pour modification de scène de crime et recel de cadavre. Elle a été incarcérée à l'issue de l'audience. Le temps aujourd'hui hésitant entre averses et éclaircies sur la majeure partie du pays, avec des averses orageuses à l'est de la Meuse aux Alpes-Maritimes. Plus d'éclaircies sur la moitié sud cet après-midi. Ensoleillé sur le pourtour méditerranéen et en Corse. Les températures, 11 à 15 degrés en général ce matin, 18 à 22 autour de la Méditerranée, 17 à 31 cet après-midi. France Musique, 8h05. C'est à vous, mon cher Clément.
Vous êtes entraîné,
Marie-Lise Divigno. Oui, toute la nuit.
Merci beaucoup, je vous souhaite une très très bonne journée. Et puis on vous retrouve demain matin à 8h pour un nouveau journal. Merci d'être avec nous sur France Musique ce matin. On est ensemble jusqu'à 9h et on va continuer à fêter en musique Jean de La Fontaine. On va aussi partir faire le point sur le Festival des écoles d'art américaines de Fontainebleau dans quelques instants à 8h10. À 8h25, l'été des frères Jacques qui chanteront La Fontaine. Et puis à 8h30, mon invité du jour sera le chef baroque Stéphane Fuget pour parler du retour d'Ulysse en sa patrie de Monteverdi au festival de Beaune. La Fontaine donc, toujours en musique, encore au XXe siècle.
Thank you.
un extrait des Deux Pigeons d'André Messager, une opérette d'André Messager. C'était le final et l'orage avec l'orchestre de l'Opéra National des Pays de Galles sous la direction de Richard Boninge. Vous allez me dire, mais quel lien avec Jean de La Fontaine? Eh bien, ce ballet composé en 1885 par André Messager, il était sur un livret d'Henri Régnier qui est une transposition dans le monde des humains de la fable de La Fontaine du même nom, Les Deux Pigeons, tout simplement.
C'est l'été sur France Musique. Musique Matin, le 7h39 de Clément Rochefort.
Merci d'être avec nous sur France Musique. J'espère que vous avez un bon coup de pédale parce que tout de suite, on prend la route du Tour de France des festivals. Et ce matin, on part en direction de Fontainebleau, prendre des nouvelles du Festival des écoles d'art américaines de Fontainebleau. Ça a commencé déjà et ça se poursuit tout au long du mois de juillet. Pour en parler, nous sommes avec sa directrice artistique, la violoncelliste Diana Ligeti. Bonjour.
Bonjour Clément.
Diana, d'abord, avant de commencer de parler du festival, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que sont les écoles d'art américaines de Fontainebleau? Est-ce que ça a un lien avec ce qu'on appelait plus communément le conservatoire américain?
Tout à fait. Le Conservatoire américain, c'est la première branche des écoles d'art américaines fondée en 1921. Ça a commencé par la musique, parce que la musique, c'est vraiment le langage plus universel par excellence, par ces écoles. Donc d'abord le Conservatoire américain, et deux ans plus tard, nous avons rajouté les Beaux-Arts. On commençait par cette idée que les arts apportent la paix et sont un moyen de dialoguer. Juste après le cataclysme de la Première Guerre mondiale, Saint-Saëns, Ravel, Francis Cassadessus, Walter Damrosch et le général Pershing du côté américain ont souhaité que justement cette grande tradition de la musique française puisse se perpétuer et puisse se transmettre, y compris à des jeunes musiciens américains.
Et d'ailleurs,
ça s'est fondé en 1921.
Donc. Voilà. Donc c'est un anniversaire en plus cette année, l'édition du festival. C'est le centenaire du conservatoire américain, dont on peut rappeler effectivement que les plus grands musiciens américains sont tous passés par le conservatoire, entre les mains de Nadia Boulanger, qui était la grande professeure historique.
Exactement. Nadia Boulanger, c'est vraiment la figure tutélaire des écoles d'art américaines. Tout le monde venait la voir. Effectivement, nous avons recensé plus de 10 000 étudiants, parmi lesquels Quincy Jones, Philip Glass, Elliot Carter, Samuel Barber, et j'en oublie sûrement Virgil Thompson, vraiment des noms très, très... Bien sûr, Aaron Copland, qui était présent à la première édition de 1921. Vraiment, tous les grands compositeurs américains sont passés par Fontainebleau, mais pas que. Il y a eu Astor Piazzolla. Bien sûr, Bernstein n'est pas venu comme étudiant, mais venu comme ami de Nadia Boulanger. Il passait des étés à Fontainebleau. Stravinsky aussi. Tous les musiciens français depuis 100 ans. Et puis, Yehudi Menuhin, Rostropovich venait de donner des concerts, des masterclass, Rubinstein, Schering.
Alors, on ne peut pas tous les citer, Diana Ligeti, parce qu'on n'aurait pas le temps.
Sûr.
Évidemment, ils sont très nombreux. Juste une question. Est-ce qu'il y aura du Nadia Boulanger au programme du festival qui court jusqu'au 31 juillet?
Bien sûr, il y aura du Nadia Boulanger, il y aura aussi du Lili Boulanger, et ça sera la journée du 24 juillet. En fait, c'est un centenaire, bien sûr, que nous avons voulu malgré la pandémie, et ça sera un festival à tiroir. D'abord, tous les samedis, nous mettons l'honneur sur une des classes qui ont fait la renommée des écoles. Mmh. Alors, ce samedi 10 juillet, ça sera pour les classes de violon et de violoncelle. Le samedi 17, les classes d'alto. Le samedi 24, les classes de piano. Et c'est là qu'il y aura du Nadia et du Lili Boulanger. Et le dernier samedi, c'est les classes oubliées, pardon. La harpe et les classes qui n'existent plus au conservatoire américain. La harpe et le chant. Et puis, nous allons bien sûr mettre à l'honneur tout le long du festival aussi la composition.
Quand vous dites les classes, ça veut dire que les concerts sont donnés par les professeurs et les élèves aussi?
Exactement. C'est une année, bien sûr, particulière, comme pour tout le monde. Nous n'avons pas pu avoir des nouveaux étudiants cet été, puisque les frontières n'étaient pas forcément ouvertes. C'était très compliqué à organiser. Donc, nous avons fait appel à nos anciens élèves qui se trouvent en Europe. Et comme je suis professeure au conservatoire, j'ai pris avec moi quelques-uns de mes jeunes élèves. Et nous avons vraiment un très, très beau panel de nouveaux musiciens, de très jeunes artistes qui feront... je suis sûre, de ce deuxième siècle des écoles d'art américaines, un très très beau siècle.
On n'en doute pas, Diana Ligeti. On va dire aussi que les concerts se passent dans la cour du château de Fontainebleau, hein, pour la plupart. Voilà, donc c'est un cadre qui est assez beau, évidemment. Quelques temps forts, moi j'ai noté un concert avec Philippe Bianconi ce soir, et l'Orchestre National d'Île-de-France. Et puis à la fin du mois, un concert autour de Martha Argerich pour son anniversaire.
Exactement, c'est le concert donc avec l'Orchestre National d'Île-de-France, avec Cascaglione et Philippe Bianconi, c'est demain soir dans la cour ovale.
Demain.
Et voilà, donc le concert mettra à l'honneur ce qui a été en 1921 la modernité, c'est Debussy, Ravel et Schoenberg. Et effectivement, comme c'est un centenaire à tiroir, on fêtera aussi le centenaire de Piazzolla. Et donc le centenaire de Piazzolla ne pouvait pas se fêter sans Martha Argerich, et donc ça sera le 21 juillet. Martha Argerich entourée de ses amis et donc avec vraiment un très très bel hommage à la fois à Piazzolla et en fait l'anniversaire aussi bien sûr de Martha pour ses 80 ans.
Merci beaucoup Diana Ligeti. Le Festival des écoles d'art américaines de Fontainebleau, c'est jusqu'au 31 juillet. Samedi prochain, vous avez évoqué entre autres la carte blanche aux classes de violon et de violoncelle de Stéphanie-Marie Degand et d'Ophélie Gaillard, au cours de laquelle on pourra entendre le trio à cordes de Jean Français que vous aviez enregistré avec votre trio il y a quelques années, le trio Ligeti. En voici le final. Bon festival, Diana Ligeti.
Merci beaucoup.
Le rondo final du trio à cordes de Jean Français, interprété par le trio Ligeti. Merci d'écouter France Musique ce matin. On est ensemble jusqu'à 9h. Et à 8h20, on fait le point sur votre affiche de concert du jour. Trois nouveaux concerts à 16h. Quatre cantates de Bach par l'ensemble Pygmalion de Raphaël Pichon. Ce soir, tard à 23h, concert Jazz sur le Vif avec l'Orchestre National du Jazz, dirigé par Patrice Carattini autour de Cole Porter et d'André Oder. Mais surtout, attention, événement, à 18h, on retourne comme tous les soirs de la semaine au Festival d'Aix-en-Provence pour suivre en direct la nouvelle production de Tristan et Isolde de Wagner avec Nina Stem dans le rôle d'Isolde, Stuart Skelton en Tristan, l'Orchestre Symphonique de Londres, le chœur de chambre philharmonique estonien, tous dirigés par Simon Rattle, en direct du festival, donc un opéra présenté comme tous les jours par Judith Chen, qui a rencontré pour nous il y a quelques jours le chef britannique et qui lui a demandé s'il était heureux de retrouver le festival après plusieurs années d'absence.
Well, of course, for all of us, it's a complete miracle that we are here.
Évidemment, pour tout le monde, c'est un vrai miracle de pouvoir être là. Nombre d'entre nous n'ont pu aller nulle part. L'orchestre n'a pas quitté Londres, à l'exception d'un seul concert en dehors de Londres en un an et demi. Alors de jouer là, tout d'un coup, pendant un mois, dans ce bel endroit, de superbes chefs-d'œuvre, comme Tristan de Wagner et Innocence de Kaija Saariaho, un autre genre de miracle. Voilà qui fait de nous des gens extraordinairement heureux. Si avant on prenait pour acquis le fait de jouer la moindre note, maintenant c'est terminé. Maintenant, on sait à quel point c'est une nécessité dans tous les sens du terme. Donc oui, c'est génial d'être ici. Et pour moi, c'est un peu comme être à la maison, car j'en suis à mon sixième opéra dirigé ici. Alors voilà, c'est merveilleux.
Thank you. Oui, je sais, c'est cruel. C'est comme un coït interrompu. C'est la grande scène d'amour orgasmique du deuxième acte de Tristan et Isolde de Wagner avec les voix de Nina Stemme et de Stuart Skelton, l'Orchestre Symphonique de Londres, dirigé par Simon Rattle. Eh ben, c'est fait exprès. C'est pour vous encourager à en vouloir plus et à écouter l'opéra en entier ce soir en direct du Grand Théâtre de Provence au Festival d'Aix-en-Provence. Ce sera avec Judith Chen. Merci d'écouter France Musique. Il est 8h26.
C'est l'été sur France Musique.
Et comme tous les jours à cette heure-ci, c'est l'heure de notre chronique Frère Jacques.
Et ben alors, qu'est-ce que c'est ?
Ce que c'est beau, la photographie, les souvenirs sur papier glacé, électrise.
Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on célèbre le 400e anniversaire de notre plus grand fabuliste, Jean de La Fontaine, dont l'une des fables les plus connues, Le Corbeau et le Renard, a été, figurez-vous, mise en musique par Georges Vamparis, compositeur d'opérettes, de chansons, de musique de films. On lui doit notamment La Complainte de la Butte, où c'est un mauvais garçon. Et puis côté film, Les Diaboliques de Clouzot, Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages, où elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas, mais elle cause, de Michel Audiard. Eh bien, les frères Jacques ont chanté cette fable de La Fontaine, la mettant en scène, comme à leur habitude, pour le plus grand plaisir du public, l'effet comique étant renforcé par le pastiche de style baroque utilisé par Georges Vamparis. Mais écoutez plutôt Le Corbeau et le Renard.
Le Corbeau et le Renard de Jean de La Fontaine, mis en musique par Georges Vamparis.
Renard, chanson de Jean de La Fontaine, fable de Jean de La Fontaine, mise en musique par Georges Vamparis, et c'était bien sûr nos chers frères Jacques quotidiens. Merci d'être avec nous sur France Musique. Il est 8h30.
C'est l'été sur France Musique.
Et l'été, c'est les festivals de musique qui accueillent tous les musiciens que nous recevons dans Musique Matin tout au long du mois de juillet et du mois d'août. Ce matin, je suis en compagnie de Stéphane Fuget. Bonjour.
Bonjour Clément.
Stéphane, qui a une grosse actualité en ce moment avec d'abord samedi 24 juillet à 21h au Festival de Beaune avec son ensemble Les Épopées. Il donnera sa version du retour d'Ulysse en sa patrie de Monteverdi. Ça sera un spectacle d'ailleurs à suivre en direct sur France Musique. Un autre concert un petit peu plus tôt le 18 juillet à 21h, des airs d'opéra de Handel, de Vivaldi, de Purcell avec Paul-Antoine Benozdian, un jeune contre-ténor qu'on aime beaucoup. Et puis il y a eu deux sorties de disques cette année, en février et en avril, un disque Lully et un disque Couperin dont on reparlera. Vous voyez que j'ai bien révisé mon sujet pour ce matin, Stéphane. Alors, on va parler d'abord, je rebondis sur La Fontaine dont on entendait les fables. Ça, c'est vraiment typiquement l'époque et le texte de l'époque sur lequel vous travaillez habituellement, hein, du XVIIe siècle.
Ah oui, 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 beaucoup, XVIIe siècle et XVIIIe siècle. On va d'ailleurs faire des petits programmes dans les jardins parisiens. On a six petits concerts dans l'été autour des fables de La Fontaine. Vous savez qu'elles ont été aussi mises en musique, enfin, pas exactement les textes, mais les textes ont été un peu adaptés, style fable de La Fontaine, on pourrait dire, par des compositeurs déjà à l'époque.
Ah ouais. Est-ce que vous allez le faire en prononciation restituée ?
C'est une bonne question.
La cigale et la
la
fourmi.
La cigale et la fourmi et à chanter.
Bon, bah écoutez, on suivra ça. En attendant, moi je voudrais vous parler d'abord et en priorité de ce retour d'Ulysse en sa patrie. D'abord, c'est votre première collaboration avec le Festival de Beaune et puis une collaboration qui va se poursuivre sur trois saisons, c'est bien ça ?
Oui, on va faire les trois opéras de Monteverdi. J'aurais préféré dire les sept ou huit opéras de Monteverdi, puisque les autres, on les a plus, malheureusement. Mais, ou alors, ils sont cachés dans des bibliothèques. Tout le monde rêve de les retrouver. Oui, sérieusement, on fait Ulysse cette année. On fait Orphée, pour les 40 ans du festival, d'ailleurs, l'année prochaine. Et on fera Le Couronnement de Poppée pour finir. On aurait dû déjà faire l'année dernière, Ulysse, en fait.
Oui. Qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière? C'est marrant. C'est une question que tout le monde se pose.
Enfin, j'ai un trou.
Moi aussi. Stéphane Fugé, est-ce qu'on peut parler un petit peu du contexte de la création de cet opéra, Le Retour d'Ulysse en sa patrie? On n'est plus dans les cours, hein. Là, on est dans l'opéra public.
Oui, oui, on est à Venise. On est effectivement pour une partition qui a été donnée à Venise, avec en général un tout petit effectif instrumental et un plateau de chanteurs qui représente déjà une très très grosse partie du budget global, je crois.
Ouais. Parce que en fait, le Retour d'Ulysse en sa patrie, ça vient après l'Orfeo.
Ça vient très tard après l'Orfeo. Il y a eu Ariane tout de suite après, puis il y a eu d'autres opéras. Orfeo, c'est le tout début, c'est 1607. En fait, on est dans les derniers opéras de Monteverdi, et le génie de Monteverdi tout au long de sa vie, c'est évidemment d'être capable de s'adapter au nouveau style et de se transformer. Il naît dans la Renaissance et il propulse avec tous les autres compositeurs de son temps, il propulse la musique dans le baroque. C'est un véritable changement de pensée qui va très certainement avec le changement de pensée d'un Galilée, par exemple. Mmh. Et ça pose la question de qu'est-ce que c'est que la place de l'homme à cette époque-là. Ulysse, c'est évidemment ce sujet-là par excellence. Quelle est la place de l'homme, de sa propre place à lui? Qu'est-ce que c'est que sa vie? Qu'est-ce que c'est que revenir à la maison 20 ans après?
Et alors, musicalement, voilà la question que je me posais, parce que souvent, les gens préfèrent l'Orfeo, par exemple, au Retour d'Ulysse en sa patrie. Ils trouvent que ça sonne mieux, que c'est plus généreux, il y a des chœurs. Qu'est-ce qui explique cette évolution stylistique entre ces deux opéras?
Bah, en fait, on part d'un divertissement qui vient de la Renaissance, effectivement, a encore des chœurs et des ensembles. Et on va vers un autre divertissement, puisque c'est toujours du divertissement, même s'il est public, qui lui va avoir des sujets plus proches des gens, on va dire. Mmh. Peut-être. Hein. On voit bien avec Poppée qui arrive et qui est un sujet politique. C'est la première fois dans l'histoire de l'opéra. Et surtout, ce qu'on a transformé, c'est la manière de raconter l'histoire. C'est-à-dire que plus ça va, plus on diminue ces fameux chœurs. Il y en a très très peu dans Ulysse. Il y en a surtout un à la fin. Tout petit d'ailleurs, et parce que ce qui nous intéresse, c'est la tension psychologique entre les personnages.
Alors on va écouter un premier extrait du Retour d'Ulysse en sa patrie. On va écouter non pas l'Orfeo, mais le Retour d'Ulysse en sa patrie. C'était un extrait un peu plus long, alors vous ne l'avez pas encore enregistré, donc j'ai choisi de manière totalement arbitraire, Stéphane Fugé. Peut-être que vous n'aimerez pas du tout, mais voilà, vous avez... Ah bah c'est super, on pourra le diffuser. On va écouter un extrait enregistré par la Veneziana de Claudio Cavina. C'est un des monologues les plus importants du Retour d'Ulysse en sa patrie. C'est le monologue d'Ulysse. Dormo ancora avec la voix d'Anicio Zorzi Giustiniani.
e contrader mio, qual aria in me respiro, e che terren calpesto. Dormo ancora, o son desto. Chi fece il sempre dolce e lusinghievol sonno ministro dei tormenti, chi cangiò il mio riposo in ria sventura, qual deità dei dormienti accura. Fratello della morte, altri ti chiama, sono lungo trasportato, deluso ed ingannato. Ti conosco ben io, padre d'errori, pur degli errori miei sono io l'autore. E se l'ombre del sonno sorella per compagna, chi si confida all'ombra perduto al fin contro ragion si bagna. Oh, dei sempre sdegnati, lumi non mai placati, contro l'isse che dorme severi, vostri divini imperi, contro l'uman voler siam fermi e forti, non tolgano, ahimè, la pace ai morti. Feaci ingannatori, voi pur mi prometteste di ricondurmi salvo in Itaca mia patria con le ricchezze mie, con miei tesori, feaci mancatori. Or non so come ingrati mi lasciaste in questa riva aperta su spiaggia erma e deserta. Vi porta fastosi per laughe per onde così enorme peccato. Se puniti non son si gravi errori, lascia Giovine, lascia ne fulmi la cura, che la legge del caso è prossimora. Sia delle vostre vele falsissimi feaci sempre voi amico, e sian qual più mal vento scorre in mare le vostre infide navi, leggeri agli acquitori e laure gravi.
Voilà, un extrait, c'est le grand monologue d'Ulysse dans Le Retour d'Ulysse en sa patrie au premier acte, avec la voix ici d'Anicio Zorzi Giustiniani, l'ensemble La Venexiana de Claudio Cavina. Alors on va le redire, hein, c'est pas du tout votre vision esthétique de la chose, mais il faudra attendre le mois de décembre peut-être pour avoir votre enregistrement à vous. En tout cas, on pourra la découvrir, votre interprétation, au Festival de Beaune le 24 juillet à 21h pour les festivaliers et pour les auditeurs de France Musique en direct. On va donner quand même la distribution, mais vous avez une belle distribution. Valerio Contaldo en Ulysse, Antea Pichanik, exceptionnel mezzo-soprano dans le rôle de Pénélope. On aura aussi Mathias Vidal dans le rôle de Télémaque, Ayako Yukawa, et puis plein d'autres chanteurs, ils sont nombreux. Marie Perbost aussi dans le rôle de Junon.
Cyril Ovitti.
Cyril Ovitti, bah oui, grand baroqueux.
Claire Le Filiatre.
Eh ben oui, bien sûr aussi, car le Fidèle, je ne pouvais pas tous les citer. Je ne voulais pas tous les citer parce que ce serait trop long. Ambroisine Bray aussi, on peut tous les dire, bien sûr. Il faudrait tous
c'est
les citer.
C'est un plateau exceptionnel.
Exceptionnel. Et votre ensemble, Les Épopées. Alors, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur le style de cet opéra de Monteverdi. Vous avez évoqué tout à l'heure cette sorte de révolution esthétique presque copernicienne qui a lieu à l'époque de Monteverdi. On a du mal à distinguer presque des airs. On a l'impression que c'est presque un continuum dramatique, que c'est pas vraiment fait pour être totalement chanté.
Ouais, alors plus on avance, plus on avance dans le XVIIe siècle, plus on va avoir des airs. Et à la fin, les récitatifs seront très très courts et il y aura de plus en plus d'airs. Il y aura des opéras avec 80 airs. Le propos, c'est effectivement de se dire quand on parle à un autre personnage, quand l'histoire se déroule comme ça, donc dans les récits, jusqu'où peut-on aller dans le parler, en fait, jusqu'où peut-on faire passer devant la parole et la déclamation, hein. C'est tout le questionnement. Perry commence déjà en 1600 dans la préface de l'Eurydice. Il dit une chose intéressante. Il dit, je vais écouter les Italiens parler. Et alors, j'entends des notes qui fonctionnent avec des accords. Puis j'entends des notes qui fonctionnent pas dans ces accords-là. Et vraiment, son référent, c'est la langue parlée italienne qui est déjà extrêmement musicale. Et donc, il y a évidemment pas de notation possible de façon musique contemporaine. Même le Pierrot Lunaire se pose une espèce de limite dans la notation avec les croix notamment. Mais c'est vrai que ce recitar cantando, cette prédominance du parler avec une voix chantée, fait que l'action se déroule à une vraie vitesse de parler. Hein. Les textes sont très très clairs à cette époque-là. Il y a deux types de récitatifs. Il y a les récitatifs qui doivent aller aussi vite que quand on parle. Et puis il y a les récitatifs qui doivent être plus lents et qui correspondent en général à des monologues. On a eu celui d'Ulysse, là. C'est la même chose pour Pénélope, qui correspondent à des moments un peu introspectifs du personnage, en fait.
Et donc, vous, votre travail, hein, depuis plusieurs années, c'est de pousser encore plus loin que tous les autres cette dimension parlée.
C'est d'essayer de faire passer cette parole en premier, effectivement. Mais c'est une question qu'on ne se pose pas chez Rossini, par exemple. C'est-à-dire, traditionnellement, les chanteurs, quand ils chantent Rossini, ils lâchent les notes pour faire les paroles. Le texte mange la musique, quelque part. Chez Monteverdi, évidemment, il y a aussi une musique très très forte, et donc la balance doit être assez subtillement réalisée pour pas être évidemment sur quelque chose qui n'est rien à voir avec ce qu'a écrit Monteverdi, parce qu'il faut être extrêmement près de ce qu'a écrit Monteverdi.
De toute façon, on peut dire d'une certaine manière que Monteverdi induit cette primauté du texte. On dit souvent prima la musica, prima le parole. Alors là, c'est vraiment le primat du texte, parce que il invente lui-même un style. C'est ça qu'il appelle le style concitato. Ça veut bien dire qu'il essaye musicalement de se calquer sur les émotions du texte.
Oui, c'est ça. C'est un rapport à l'émotion. Il cherche à traduire avec la musique la puissance de l'émotion. On est déjà un petit peu plus tard, hein, on est un peu avant Ulysse, mais on est plus tard que Perry quand il parle de ça. Mais c'est vraiment la bascule d'une pensée mathématique de la musique, quelque part, de la Renaissance, héritée du Moyen-Âge, et puis une pensée totalement émotionnelle de la musique.
Quando i sassi ai miei lamenti rispondeo fatti pietosi, ti ricordi i boschi ombrosi, ti ricorda i boschi ombrosi. Di ti allor non ti sembrai più indietro sconsolato, or fortuna si mancato, e tua volta in testa ai guai. Di ti allor non ti sembrai più indietro sconsolato. Fissi già me sto e dolente, fissi già me sto e dolente, or gioisco e quegli affanni che sofferti ho per tant'anni, fan più caro il ben presente. Fissi già me sto e dolente,
Alors ça, c'était un extrait de l'Orfeo de Monteverdi, la ritournelle d'Orfeo, deuxième acte, Vi ricorda o boschi ombrosi, avec la voix de Zachary Wilder, l'ensemble Clématis. J'ai choisi ce disque. Alors c'est pas, encore une fois, c'est pas votre esthétique, ni celle des épopées, mais à l'époque, c'était vous, au clavecin, sur cet enregistrement de la musique de Monteverdi. On va essayer de faire un pont avec une autre actualité que vous avez, les deux disques qui sont sortis au mois de février et puis au mois d'avril, de musique baroque française, pour le coup. Et pendant qu'on écoutait cette musique, Stéphane Fuget, on se disait, tiens, c'est étonnant parce que chez Monteverdi, chez Cavalli encore, c'est le récitatif qui est vraiment le cœur du drame, le cœur du théâtre. On se disait, s'il avait voulu écrire des airs, il les aurait écrits. Non, c'est vraiment du récitatif et conçu comme tel. Et dans l'histoire de l'opéra italien, il s'est presque un petit peu étiolé, devenu une chose un petit peu ennuyeuse, qui permet simplement d'aller d'un air à un autre, ce qui est aujourd'hui le moment le plus important pour le public de l'opéra romantique italien. C'est l'air qui intéresse tout le monde. Ouais. Alors que paradoxalement, est-ce que la musique française, elle, à la même époque, au XVIIe, est-ce qu'elle n'aurait pas capté cette idée du récitatif, ou du récit en tout cas ?
Bah, on sait que, on dit que Lully est allé écouter la Chambellée, qui était la grande tragédienne racinienne de l'époque, ce qui veut dire qu'on a une espèce de référent qui ressemble à Péri en train d'aller écouter les Italiens. Mais ce qui se passe, c'est que petit à petit, l'harmonie, en fait, va manger le récitatif. On voit bien chez Rameau et cette obsession de la pensée harmonique, ce qui l'intéresse, c'est les dissonances. Ce qui l'intéresse, c'est tout ça. D'ailleurs, les livrets, c'est pas la chose qui le passionne le plus, Rameau. Ouais. Et on voit bien que le XVIIIe siècle français, par la force de la pensée harmonique et musicale, va ralentir considérablement le récitatif, je sais pas si on peut oser dire musicaliser le récitatif.
Ouais.
Ce qui fera que Salieri, quand il viendra à la fin du 18e siècle travailler avec Beaumarchais sur Tarare, essaiera d'avoir des chanteurs qui parlent le plus possible. Il a écrit vraiment parler dans sa partition, et Beaumarchais nous raconte le travail qui a été fait par Salieri pour amener les chanteurs à parler le plus possible avec leur voix chantée. Et Beaumarchais dit, à moins d'avoir parlé complètement, monsieur Salieri pouvait pas aller plus loin. C'est une chose qui est intéressante, parce que quand Garcia au 19e siècle parle du récitatif italien chez Rossini et chez Mozart, d'ailleurs, il dit on parle le récitatif, et Ravel dit la même chose dans la préface de l'heure espagnole, où il dit plutôt sur le parler que sur le chanter, comme on fait dans les opéras bouffes italiens. Donc effectivement, en France, au 18e, c'est autre chose qu'on travaille, et Lully commence de ce côté-là, évidemment. Et mais ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a une telle surcharge ornementale en France que la musique, oui, devient très prégnante.
Alors on va écouter justement un petit extrait pour continuer à parler de ça, parce que ça, c'est vraiment un sujet passionnant. On va écouter un extrait du Dies Irae de Lully, ce grand motet.
Thank you.
Voilà, je voulais qu'on écoute vraiment juste un tout petit extrait de ce Dies Irae, un des grands motets de Lully que vous avez enregistré avec votre ensemble Les Épopées. C'est un disque qui est paru donc il y a quelques mois. Là, on est en plein dans la musique française. Et vous parliez d'un truc intéressant, c'est la surcharge ornementale. Vous l'avez poussé, vous, jusque dans le traitement des chœurs, ce qu'on fait pas toujours.
Oui. Mais et il faut le faire moins dans la musique religieuse que dans la musique profane. J'ai hâte de faire de la musique profane. Non. Si on voit ce qu'a écrit Niver, par exemple, dans le Magnificat ou pour voix seule ou ce genre d'œuvre, on voit que c'est vraiment totalement surchargé. Ce qui se passe, c'est que la partition ne peut pas avoir tout de noté. Et donc, dès le début, dans les années 1636, Mersenne parle de Titlouse et dit Monsieur Titlouse rajoute à l'orgue des tas d'ornements qui ne sont pas notés sur la partition. Et donc il faut prendre le temps, je pense, de faire ça. Et c'est toujours intéressant de se dire jusqu'où peut-on aller. Et quand on voit les transcriptions de d'Anglebert, par exemple, des œuvres de Lully, alors personnellement, à chaque fois que j'ai mis les ornements, que je pense juste déjà dans de la musique française, je vais faire un petit coucou à d'Anglebert et je m'aperçois que je suis encore très 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 en dessous.
Donc ça veut dire qu'en fait, l'esprit français, c'est un esprit qui est plus décoratif peut-être que celui des Italiens. Nous, on est un peu dans le paraître, dans l'image. C'est ça, c'était une musique qui était l'image de la société française, tout simplement.
Oui, certainement. Effectivement, on arrive à imaginer nos présidents de la République pris par des paparazzis en caleçon de bain sur une plage. On a du mal à imaginer Louis XIV en caleçon de bain sur le bassin d'Apollon, sans sa perruque, ses nœuds, ses dentelles.
Ben oui, non, mais c'est vraiment le reflet. C'est pour ça qu'il faut absolument orner le plus possible. D'ailleurs, c'est un travail que vous faites depuis longtemps dans votre classe au Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris, mais aussi cet été, et j'en profite pour le dire, à travers une académie, un festival que vous avez monté avec votre ensemble les Épopées. Ça se passe où, ce festival, en un mot?
Ça se passe dans Lyon. Ça se passe entre Sens et Joigny. On sera autour d'un instrument qui est un orgue Renaissance qui date de 1568, qui est un orgue assez exceptionnel. Et voilà, c'est parce que effectivement la transmission c'est une chose extrêmement importante, le lien avec tous les habitants, puisque moi je suis né à Sens, donc le lien avec tous les habitants de la région, il est aussi extrêmement important. Donc c'était une évidence de créer une académie et un festival.
Et ce sera du 6 au 14 août. Il va être temps de se quitter. On rappelle en vitesse éclair toutes les actus de l'été, le retour d'Ulysse en sa patrie au festival de Beaune le 24 oui. juillet à 21h.
Il y a déjà une dizaine d'années Kader Assisi et Anne Blanchard me disaient « Quand est-ce que tu montes ton orchestre ?» Voilà.
Et donc, d'autres concerts, vous serez au clavecin dans la musique de Bach?
Oui, avec Jean-Christophe Spinozzi, une belle complicité musicale avec le concerto en ré mineur. Déjà au Festival de Beaune d'ailleurs, le 10 juillet.
Voilà, et puis le 18, un programme que vous dirigerez, d'air d'opéra, Handel, Vivaldi, Purcell, avec le contre-ténor Paul-Antoine Benos-Djian. Plein d'autres concerts, on peut pas tous les citer évidemment parce que vous avez une grosse actualité cet été. Mais on va se quitter avec un extrait de votre tout dernier disque qui était consacré entre autres aux leçons de ténèbres de François Couperin, le grand. On pourra en parler pendant des heures, mais nous n'avons plus le temps. On va laisser parler la musique avec deux sopranos qui se mêlent magnifiquement, Florie Valiquette et Sophie Juncker. C'était avec l'orchestre de l'Opéra Royal de Versailles sous votre direction. Merci Stéphane Fuget.
À Versailles où on réalise une intégrale des grands motets de Lully d'ailleurs.
Qu'on a hâte de recevoir. On avait la première partie, mais on a hâte de recevoir la suite. Passez un bel été et bon voyage à Beaune.
Merci Clément.
Voilà, c'est la fin de la troisième leçon de ténèbres pour le mercredi saint de François Couperin. Jérusalem Convertere, Florie Valiquette, Sophie Juncker avec l'orchestre de l'Opéra Royal de Versailles sous la direction de Stéphane Fuget.
Et bien voilà, c'est la fin de cette émission Musique Matin, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain bien sûr. La réponse à la question du jour, et bien c'était la revue de cuisine, qui est ce ballet qui raconte le mariage de la casserole et du couvercle menacé par le fouet, la casserole qui succombe à la flatterie du fouet, le torchon qui fait les yeux doux au couvercle. Bref, la revue de cuisine de Martinou, tout est bien qui finit bien. Bravo à Jean Scheller de Palavas, bravo à Jean-Richard Couton de Nîmes et à Ambroise du Mans. Bravo à tous les trois, vous recevrez donc le disque de Victor-Julien Laferrière. Dans quelques instants, restez à l'écoute puisque vous retrouvez le camarade Jean-Baptiste Urbain. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour Clément.
Est-ce que vous êtes heureux Jean-Baptiste de vous lever moins tôt que d'habitude?
Ben oui, parce que je peux vous écouter tous les matins, Clément.
Est-ce que vous savez le premier morceau que vous allez diffuser? Vous voyez, je ne vous demande pas tout le programme.
Le premier morceau, ce sera Beyoncé. Non, ce sera, ce sera un compositeur belge, Pierre Van Maldere.
D'accord. Ben, c'est dommage parce que moi, j'aurais bien aimé vous voir danser sur Beyoncé avec un petit collant résille, Jean-Baptiste.
Mais on peut danser aussi sur de la musique baroque.
Ça, évidemment. À tout à l'heure, Jean-Baptiste, c'est à 9h. Demain, moi, je vous retrouve à 7h. Et puis je recevrai le ténor Roberto Alagna avec Jean-Louis Grinda, le patron des Corégies d'Orange, pour parler de la nouvelle production de Samson et Dalila aux Corégies d'Orange, qui sera bien sûr à suivre sur France Musique également. Allez, un grand merci à toute l'équipe du jour, Emmanuel Morse-Duncan et Maxime Peretti à la technique, un nom qu'on peut dire en recitar cantando. Merci à Eric Carrère à la cabine, Marion Guillemet a préparé cette émission réalisée aujourd'hui par Taïsia Froidure. Je vous souhaite une très très bonne journée sur France Musique. Je vous dis à demain 7h30 et je vous embrasse bien fort.
À réécouter sur francemusique.fr.